Bonjour Guillaume,
Bonjour Pierre.
nous allons nous pencher aujourd'hui sur le livre de Ruth. C'est un livre donc qui appartient à la Bible, à l'Ancien Testament et qui est agréable à lire. C'est
Mais
un
oui.
petit roman, très intéressant, très vivant. Et en fait, ce livre de Ruth, si on le situe bien dans son contexte, c'est un livre qui suit le livre des juges, qui décrit un peu les désordres, les violences, les impiétés du peuple d'Israël à cette époque. Et là, on va rapporter dans ce livre une histoire bien pleine de fraîcheur, d'espérance, de sérénité. Donc ça s'oppose un petit peu au livre des juges qui pouvait être un peu dur. Voilà. Alors déjà, ce livre de Ruth, on va donc pouvoir peut-être fixer son époque, sa rédaction, son auteur. Est-ce qu'on le sait?
L'auteur, non. Mais dans le livre de Ruth, il est dit que ça se passe au temps où les juges jugeaient. Donc, on est vraiment dans le contexte que vous avez décrit.
Mmh.
Les juges, c'est la période qui se trouve entre la conquête du pays de Canaan par Josué, donc on va dire vers 1400 avant Jésus-Christ, la conquête qui dure quelques années, hein, une vingtaine d'années, et l'avènement de Saül comme roi que l'on peut situer aux alentours de 1100 avant Jésus-Christ. Donc il y a une période d'environ 300 ans pendant laquelle les juges, dont Samson par exemple,
oui.
Pendant laquelle les juges donc exercent leur métier, leur activité de juge.
Donc voilà, un peu, disons, voilà. Fixé oui.
Peut-être ce qu'on peut dire sur le livre dont on ne connaît pas l'auteur, c'est qu'il s'inscrit dans la tradition judaïque comme étant un des cinq livres qu'on appelle les cinq rouleaux ou les cinq mégilotes. Ces rouleaux donc, qui étaient sur lesquels on écrivait les livres. Et ces cinq rouleaux sont lus tout au long de l'année liturgique, c'est-à-dire l'année qui commence à Pâques et qui finit à Pâques, qui est le commencement des mois, hein, qui est finalement le premier mois lunaire après l'équinoxe de printemps, hein, comme recommencement de la vie. Eh bien, il y a une année liturgique et il y avait donc des fêtes dans le calendrier religieux d'Israël, qui était la fête de la Pâque qui était suivie des pains sans levain. La Pâque n'était pas typiquement la fête, mais après, c'était la fête des pains sans levain qui durait une semaine. 49 jours après Pâques, il y avait Pentecôte, mais qui s'appelait la fête des semaines, et non pas Pentecôte, puisque Pentecostès, c'est du grec, et donc c'est les Grecs qui l'ont appelé comme ça. Et ensuite, il y avait au septième mois, donc si Pâques est en mars, alors le septième mois, c'est en octobre, et si Pâques est en avril, c'est en novembre. Mm-hmm. Et au septième mois, il y avait la fête des huttes, des cabanes ou des tabernacles, selon comment est-ce qu'on les appelle, qui sont ces espèces de cabanes dans lesquelles les Israélites habitaient pendant une semaine pour se souvenir qu'ils avaient habité dans le désert. Et alors, à l'occasion de ces fêtes et de jours particuliers, on lisait ces cinq livres qui sont le Cantique des Cantiques, Ruth, les Lamentations de Jérémie, Ecclésiaste et le livre d'Esther. Et il me semble que dans la vision globale de ces lectures, on a un peu un déroulement de l'année liturgique. Où dans le Cantique des Cantiques, de toute évidence, le bien-aimé a du mal à rencontrer la bien-aimée. Et c'est l'histoire d'Israël qui a du mal à rencontrer Dieu. Dans une lecture historique, bien sûr, et pas dans une lecture morale ou typique. Mmh. Ensuite, avec Ruth, alors Israël a rencontré Dieu. Puisque Ruth typifie Israël, et elle qui est une étrangère, elle est devenue personne grata, et elle va pouvoir être dans le peuple, et même donner la descendance à David, qui donnera la descendance au Messie.
Oui.
Mais alors, le peuple d'Israël ayant rencontré Dieu, alors avec les lamentations de Jérémie, alors il y a quelque chose de désolant, la désolation, qui survient à la destruction du temple de Jérusalem et du pays d'Israël par Nebuchadnezzar sous Sédécias en 588 avant Jésus-Christ. Et donc ça, c'est la troisième chose, et la lamentation de Jérémie est lue en juillet-août à l'occasion de ce deuil, de ce jeûne que vivaient les Juifs en souvenir de la destruction du Temple de Jérusalem.
Oui.
La quatrième chose, c'est donc le livre de l'Ecclésiaste qui est lu à l'occasion de la fête des cabanes, des tabernacles ou des huttes. Et la cinquième chose, c'est le livre d'Esther qui est lu juste avant la nouvelle année, à la fête de Pourim, la fête des Lumières.
Mmh. Voilà. Oui, ça va déboucher sur une délivrance.
C'est ça.
Oui, oui. Mais alors, c'est pas le sujet, mais enfin, l'avant-dernier livre, je vois pas très bien la justification.
Donc, le livre de l'Ecclésiaste,
oui.
À l'occasion de la fête des tabernacles.
Oui.
L'Ecclésiaste, justement, si vous voulez, dans son parcours, le peuple d'Israël réalise. Alors, il n'a pas rencontré Dieu à Pâques, il le rencontre à la fête des semaines, parce que les gerbes, en fait, la terre produit, et donc la fête des semaines, c'est la fête des récoltes.
Mmh.
Et donc, c'est justement à la moisson des orges que Ruth va revenir dans le pays. C'est à la récolte. Mais une fois la récolte faite, alors le peuple d'Israël a des problèmes. C'est lamentation de Jérémie, et il va en avoir une réflexion désabusée à la fête des tabernacles, où il va quitter ses maisons pour aller vivre dans les cabanes.
Ah oui.
C'est l'Ecclésiaste.
Ah oui, d'accord.
Mais l'espérance sera dans ce livre d'Esther,
L'Esther,
dans lequel le nom de Dieu n'est pas nommé.
Oui, parce que je trouvais que ce livre lu pour une fête, ça me paraissait bizarre. Mais revenons à Ruth. Alors, cette histoire est une allégorie de plusieurs choses. Il y a plusieurs thèmes qui vont se trouver. Et on va retrouver la rédemption, l'amour de Dieu pour ses créatures. Chaque personnage et chaque situation va représenter une situation, un symbole. Et on va en parler au fur et à mesure de leur apparition. Alors, une chose est à remarquer, c'est que Dieu est absent. Enfin, quand je veux dire que Dieu est absent, c'est qu'on ne trouve pas, comme dans les autres textes bibliques, souvent, on ne voit jamais, par exemple, « Alors Dieu dit, alors Dieu m'a demandé de dire, alors Dieu fait ceci ou fait cela. » C'est une histoire, on pourrait dire, sans Dieu, disons, pas la présence dans le texte, effectivement. Et personne ne raconte l'histoire. C'est un déroulement, vraiment, comme si on prenait presque un feuilleton sur le journal, comme ça existait à une certaine époque. Et tout simplement, on lit les événements qui se déroulent au fur et à mesure, de la façon la plus simple. Donc c'est ça qui est très agréable, évidemment, à lire. Alors, pour bien peut-être comprendre le livre de Ruth, il ne faut pas oublier, parce que je crois que c'est relativement important, la tradition juive sur la société. Là, elle est vraiment omniprésente, et effectivement, Ruth, on va le voir, est une étrangère, donc on pourrait penser que ça va lui être difficile. Il y a, disons, des traditions à respecter, et au fur et à mesure qu'on avance, on voit que Ruth avance elle aussi et peut se heurter à des traditions, mais bon, pour l'auditeur, on peut dire tout de suite, s'il ne connaît pas Ruth, que ça finit bien à la fin. Voilà. Alors, le premier livre, c'est tout simplement un séjour dans un pays étranger. Il est arrivé qu'un
premier chapitre.
Voilà, au premier chapitre, Élimèque avait quitté sa famille avec son épouse Noémie. Effectivement, et ses deux fils, parce qu'il avait quitté les terres de ses pères pour ce pays étranger, parce que peut-être, évidemment, il y avait une famine, peut-être qu'il y avait des ordres, peut-être aussi qu'il s'était mis à l'abri, effectivement, de quelque chose, il pouvait craindre quelque chose, et on pourrait penser que tous les malheurs qui s'abattent sur cette famille, la mort du père, la mort des fils sans descendance, c'est peut-être une punition parce qu'il avait quitté la terre de ses de ses pères. Peut-être, c'est une hypothèse que j'avance comme ça. Hein. Je n'ai pas trouvé quelque chose qui pouvait dire, mais c'est une réflexion qu'on peut se faire.
Je voudrais dire au passage que, à mon sens, Dieu ne punit jamais. Hein, c'est-à-dire que Dieu ne... La punition, pour nous qui avons connu les instituteurs qui mettaient au coin avec un bonnet d'âne, la punition, c'est de faire mal quand on a mal fait.
Mmh.
C'est-à-dire qu'en fait, tu vas payer en ayant mal parce que tu as mal fait. Je pense que Dieu discipline, mais Dieu ne punit pas.
Oui.
De sorte que la mort de Macloin et Kilion, les deux fils d'Élimélec, à mon sens, n'est pas une punition de Dieu, mais quelque chose qui leur est survenu pour des raisons qui ne nous sont pas expliquées, mais qui qui sont bien sûr liées au fait qu'ils sont allés en Moab alors qu'ils avaient à rester dans ce pays promis qui était cette terre de Canaan.
Bon, vous avez raison de ramener les choses à leur juste mesure, c'est bien. Alors, après ce séjour, hein, cet exil, eh bien, il y a les choix, les problèmes de choix qui vont se poser à plusieurs titres. Il y a Noémie, décide à revenir à Bethléem. Alors déjà, Bethléem, ce n'est pas peut-être gratuit, le choix de Bethléem. On sait ce qui se passait à Bethléem. Hein.
Alors Bethléem, c'est littéralement la maison du pain ou de la nourriture.
Oui.
Ou de la, et elle est dans, dans le pays d'Éphraïm, qui est le pays de la fertilité. C'est donc tout un symbole, effectivement.
Tout à fait symbolique. C'est donc, elle y retourne parce qu'on peut manger à sa faim, d'une part, et d'autre part, c'est de là où naîtra le fils, hein, le descendant de David, le Messie. Alors, Noémie décide de revenir à Bethléem, et elle dit à ses belles filles, qui sont veuves et sans enfants, bah, de rester dans leur propre pays, puisqu'elles ne sont pas, évidemment, des Juives. Et puis, entre les deux pays, il y a quand même une rivalité, et on ne s'entend pas très bien entre voisins. Et voilà que elles suivent au départ, elles insistent pour suivre Noémie, mais Noémie insiste, elle a un bon caractère de belle-mère, je trouve, hein, et Orpa, l'une d'elles, tout en pleurant, décide de ne pas suivre et de rester dans son pays. Mais Ruth la suit et ne veut pas abandonner Noémie. Là, c'est le premier tableau. Alors pourquoi cette décision ? Par attachement à Noémie, elle aimait tellement sa belle-mère, est-ce que c'est pour le souvenir de son mari ? Est-ce le travail de Dieu dans son cœur qui veut la mener à un but qui est précis ? En tout cas, elle est en marche, au sens propre et au sens figuré, dès le début. Elle prend une décision, Noémie a pris la sienne, Ruth décide de la suivre, et puis elles s'en vont. Elle quitte le pays de Moab pour aller donc jusqu'à Bethléem. Donc, c'est déjà une mise en marche. Est-ce que c'est déjà dans le signe que Dieu veut, a un plan sur elle, même si je dis qu'il n'était pas là, Dieu intervient de cette façon-là.
Peut-être pour placer ce que vous venez de dire dans l'ensemble du livre de Ruth, je vais souligner que ce livre contient 4 chapitres. Alors, les chapitres ne sont pas dans les textes originaux, hein, puisque la mise en chapitre date du XIIIe siècle et semble avoir été faite par un moine irlandais. Et la mise en verset du XVe siècle est faite par Robert Estienne, qui était imprimeur à Paris. Et il lisait ce livre de Ruth tout d'un trait. Mais aujourd'hui, nous avons des chapitres, et on peut dire que au premier chapitre, il y a le retour de Noémie avec ses deux belles-filles. Au deuxième chapitre, il y a le personnage de Boaz qui est présenté. Au troisième chapitre, il y a la rencontre entre Boaz et Ruth, qui était cette personne qui avait le droit, sur laquelle il avait le droit de rachat. Il faudra qu'on explique cela.
Voilà, oui,
et au quatrième chapitre, il y a tous les fruits de cette rencontre. Alors, je crois que ça permet peut-être de poser des choses et de voir comment est-ce qu'on peut les creuser un petit peu.
Avec Noémie, ou Noémie avec Ruth, comme vous voulez, sont partis, sont en route vers Bethléem. Donc c'est vraiment, donc là, un signe, c'est vraiment une décision que Dieu a inspirée à Noémie et à Ruth.
Alors je vous propose de répondre à cette question Hein, le départ de Noémie, de Ruth, d'Orpa, avec au moins deux lectures. La première, c'est la lecture historique, et la deuxième, c'est la lecture morale. Faisons une lecture historique. Je crois que l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un peuple. Et Ruth, c'est l'histoire d'une femme qui, quelque part, va représenter un peuple qui est tellement infidèle qu'il ne mérite pas d'être le peuple de Dieu, mais qui va revenir comme le peuple de Dieu. Un peuple qui souffre, qui a souffert, qui souffrira tout le long de son histoire. Et il faut se souvenir, par exemple, que dans le Pentateuque, on trouve quelque chose qui est assez surprenant. Hein, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 23, au verset 3, où on lit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans la congrégation de l'Éternel, même leur dixième génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel à jamais, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau dans le chemin lorsque vous sortiez d'Égypte. Donc, Ruth, qui était Moabite,
eh oui,
elle était vraiment sous la condamnation de la Torah.
Eh oui.
Et je ne sais pas trop comment est-ce que ces gens qui sont peut-être ces gens avec une haute estime d'eux-mêmes, des religieux de l'époque, considéraient cette femme qui venait avec Noémie, qui était une Israélite,
oui,
mais qui était quand même l'épouse que Maclon ou Filion, parce que je ne sais pas lequel des deux a épousé Ruth, n'aurait pas dû prendre, puisque c'était quelqu'un d'une congrégation,
oui,
qui ne devait pas rentrer dans la congrégation.
Eux-mêmes avaient trahi en prenant, voilà, des étrangères. Tu n'épouseras pas une étrangère.
Donc une lecture historique, et je crois qu'il montre toute la difficulté d'Israël quand Israël dévie de son chemin, mais toute la grâce de Dieu, parce qu'Israël peut revenir. Et donc, Ruth revient, et Israël revient, et reviendra. Lecture morale, alors, on peut tous s'identifier à Ruth. On peut tous s'identifier à Ruth parce qu'on est tous, quelque part, en train de s'éloigner de Dieu, de revenir, et donc...
On est toujours l'étranger de quelqu'un.
Voilà. Et ce que vous avez signalé de Ruth, savoir cette détermination, ce chemin du retour... Alors, bien sûr, il savait qu'il y avait du blé, hein, il savait qu'il y avait du pain, il savait qu'il y avait des choses à faire dans cette région, mais quand même, Ruth, par exemple, dit à sa belle-mère, Noémie, ton Dieu sera mon Dieu. Donc il y a quand même une détermination beaucoup plus profonde que l'aspect vénal, hein, que le simple côté
matériel
de la sécurité, de la nourriture, de l'argent, etc.
Bien, vous voyez, pour vous l'avouer, je n'avais pas trop pensé à l'aspect matériel intéressé. Parce qu'en fait, elle sait bien qu'elle mangerait du pain à Bethléem, mais en fait, je crois quand même qu'elle allait rester toujours une étrangère, donc elle allait au-devant des difficultés. Donc je pense que c'est vraiment autre chose qui lui a fait faire son choix. Hein, ton Dieu sera mon Dieu. Elle pose un acte de foi. Donc j'avais éliminé le côté intéressé. Mmh. Ça ne m'était pas venu, mais vous avez bien raison, évidemment, de le signaler quand même. Bon. Alors, elles sont parties, donc c'est un, disons, elles arrivent en fait à Bethléem, hein, il faut quand même avancer, il ne faut pas rester en chemin, et c'est l'époque de la moisson, important aussi comme symbole, une moisson, c'est, ça y est, la terre donne ses fruits, et donc c'est une bénédiction, c'est de l'orge, c'est une nouvelle année qui s'ouvre, donc effectivement, c'est tout nouveau, c'est un renouveau, et quel est l'état d'esprit de Noémie quand elle arrive dans ce pays où c'est en fait c'est l'époque des moissons?
Alors l'état d'esprit de Noémie, c'est ne m'appelez plus Noémie, mais Mara. Et Mara veut dire amère. Et donc son état d'esprit, c'est la défaite, c'est le regret, c'est l'humiliation, c'est... par exemple, le droit de rachat qu'on trouve dans le Pentateuque, et je crois en Lévitique 25, le droit de rachat est quelque chose d'assez humiliant. Ça veut dire qu'en fait, le plus proche parent de Noémie pouvait la prendre comme femme. Pourquoi ? Pour lui donner descendance et subsistance. C'est-à-dire qu'en fait, elle était rien, et grâce à un homme qui se ruinait parce que ça lui coûtait de l'argent, alors l'homme était obligé, était tenu de la prendre comme femme. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne connaît pas tellement. On a les allocations familiales monoparentales, un ensemble de ressources qui sont prévues pour faire face à ces situations. Mais je crois que l'état d'esprit de Noémie, c'est finalement le découragement, c'est la tristesse. Mais elle est très belle quand elle vient auprès des siens et qu'elle ne cache pas sa tristesse. Ça, je trouve que c'est beau d'avoir cette vérité.
Oui, parce que les femmes la reconnaissent, mais elles disent voilà. Qu'elle n'est plus Noémie.
C'est ça. Oui.
C'est vrai qu'elle était veuve, ses fils étaient morts, sans descendance, elle arrivait quand même sans rien.
Sans rien.
Sans rien, il n'y avait que Ruth qui pouvait la souvenir.
Et Noémie fait un acte de foi. Elle, c'est elle aussi, certainement, hein, mais je pense en tant que porte-bannière, hein, c'est elle qui choisit de revenir, elle sait où est-ce qu'elle va revenir, elle a entendu qu'il y avait du pain, et elle, c'est elle qui fait ce retour, mais apparemment c'est aussi elle qui en est la plus contrite, parce que pour elle, revenir, c'est vraiment marquer son échec.
Bien oui.
Et je pense que ça doit nous encourager à le faire, ça. Quelquefois, on préfère que les choses ne se sachent pas, mais quand les choses se savent, finalement, eh bien, peut-être que le retour est encore plus fort, plus ancré, plus effectif, plus précisé.
Hein, les choses sont nettes.
Voilà, les choses sont nettes.
Mmh. Ouais. Oui, oui. Donc, Noémie fait aussi donc, ce travail. Et puis, après, eh bien, il va y avoir une notion de service, parce qu'elles arrivent, mais elles n'ont rien. Donc, il faut quand même subvenir à leurs besoins. Et elles sont toutes seules, là, pour l'instant. Donc, il va y avoir un travail de foi qui va se faire. Effectivement, il faut donc se mettre au service. Alors, au service matériel, on va voir comment. Et puis aussi au service de Dieu. Donc, il faut évidemment adhérer, bien entendu. Alors, Ruth va glaner dans les champs. C'est de glaner les champs, c'est de passer après les moissonneurs et ramasser ce qui reste. Et alors, c'est de l'orge, c'est pas encore non plus encore du froment. Donc, c'est encore quelque chose qui doit venir. C'est qu'une espérance, la graine. Il faut la moudre pour la transformer en froment, le froment le transformer en pain. Donc, pour commencer, il n'y a rien. Hein. Effectivement, il n'y a que du travail à faire. Hein. Donc, elle va se rendre utile. Elle est courageuse, elle prend son courage à deux mains, elle est énergique, elle est généreuse, et puis elle va partager évidemment le fruit de son travail avec Noémie, qu'elle n'abandonne pas. Et par hasard, elle est allée glaner dans un champ qui appartient à un riche propriétaire qui va lui accorder sa protection et qui est un parent de Noémie ou du mari de Noémie. Et c'est le fameux Boaz. Alors, est-ce que Boaz, là, n'est pas déjà un personnage symbolique qui pourrait représenter, disons, le Seigneur?
Je pense, oui.
Hein?
Je pense. Mm. Je suggère aussi que dans une lecture biblique, c'est très peut-être porteur de retenir des versets clés. Et je crois qu'au chapitre premier, le verset clé qu'on pourrait retenir, c'est le... verset 16, où Ruth dit « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » On en a parlé, mais voilà un verset clé qui montre en fait la détermination profonde, spirituellement valable de Ruth.
C'est l'engagement.
Un engagement personnel et d'avoir conscience de tout ce que ça peut représenter du point de vue d'Israël. Alors, comme vous le soulignez, au chapitre 2, il y a un verset qui est très très joli, je trouve, le verset 3, donc où Ruth va glaner dans un champ après les moissonneurs, et il se trouva fortuitement que c'était la portion de champ de Boaz qui était de la famille d'Élimélec. Alors, et d'ailleurs au passage, Élimélec veut dire Élie c'est mon Dieu, et Mélec c'est roi, et Boaz c'est force. Et Je crois que ces prénoms ont aussi une importance.
Signification.
Peut-être il y avait une foi d'Élimélec, hein, qui était là et il a quand même transmis cette foi. Et donc, dans ce verset 3 du chapitre 2, je trouve que ce mot fortuitement est quand même très très fort. Parce que Ruth va justement dans le champ, comme vous l'avez souligné, qui est celui de. Alors, ce n'est pas son plus proche parent. Hein, on verra
non,
au chapitre 4
qu'il
y en avait un autre.
Oui.
Hein. Mais c'est beau de voir cette démarche de Ruth, de voir comment Ruth, finalement, va quelque part, et avec cette foi qui l'anime, alors il se trouve fortuitement que. Je trouve que du point de vue moral, alors là on laisse un petit peu le côté historique, on parle
oui,
de
oui,
nous
oui,
hein,
oui, oui,
aujourd'hui, au XXIe siècle, je trouve qu'au niveau moral, c'est très très réconfortant de lire ce genre d'expression. Il se trouva fortuitement que. Quand quelque chose ne va pas, eh bien faisons comme Ruth. Réclamons-nous de Dieu. Disons que c'est en Dieu que nous avons la force, l'espérance, et allons faire des choses. Et peut-être que quand on fera ces choses, il se trouvera fortuitement
oui.
qu'on rencontrera quelqu'un qui aura du travail, quelqu'un qui pourra nous aider, nous accompagner, nous faire du bien, etc. Et donc, je crois qu'il y a vraiment un enseignement très, 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 très fort dans ce chapitre 2, qui est cette rencontre fortuite. Quelquefois, les rencontres avec Dieu sont fortuites. Quelquefois, les rencontres avec Dieu résultent de quelque chose qui vient sans qu'on sache trop comment. Et je pense qu'il faut vraiment avoir, en tant que chrétien, nous, cette démarche d'ouverture intérieure, en ne sachant pas ce qui va réussir. Mais en faisant comme Ruth, finalement, d'être sensible spirituellement, attentive à ce qui doit finalement être, mais sans savoir vraiment ce qui réussit.
Se
je trouve que là, il y a un très bel exemple.
Donc, on a l'impression tout de suite, quand Ruth est arrivée dans ce pays et qu'elle se met au service de Noémie et qu'elle va travailler, en fait, eh bien, que déjà le Seigneur, alors qu'elle est une pauvresse, qu'elle est une étrangère, il ne faut pas l'oublier, eh bien, le Seigneur accueille celui qui vient à lui. Fortuitement, il lui permet d'être tombé sur le champ de Boss. Donc, le Seigneur le permet. Alors, on peut remarquer aussi l'attitude des serviteurs de Boaz. Ils ne jugent pas. Ils respectent et même l'aident. Ils pourraient jeter des pierres, ils pourraient la chasser parce que c'est l'étrangère qui vient leur prendre quelque chose qui pourrait s'être approprié. Ils sont sympas, disons.
Alors, ils sont obéissants à la loi. Hein, parce
oui.
que la loi de Moïse indiquait qu'il fallait laisser...
une part
le pauvre glané, voilà, et qu'il ne fallait pas s'occuper de ramasser ce qui n'avait pas été lié dans les gerbes.
Oui, c'est gentil de dire ça, mais en réalité, je ne sais pas si tout le monde respectait la loi. Mais enfin, là, il la respecte.
Voilà.
Hein, et il laisse donc cette malheureuse Ruth, je dis malheureuse pour l'instant, je ne sais pas si elle est, parce qu'en fait, elle est dans les bras du Seigneur. Hein. Et alors, donc, Noémie va là, évidemment, donc, lui dire, que va lui révéler que Boaz est tout simplement un parent qui a le droit de rachat et va la conseiller justement un peu de se faire connaître. Là, je trouve un peu que Noémie joue le rôle un peu d'entremetteuse, ça ne me plaît pas beaucoup, mais en fait, c'est comme ça. Hein. C'est de la destinée qui se veut comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, de parents qui ont un droit de rachat ? Un droit de rachat, c'est-à-dire de pouvoir épouser une personne.
C'est ce que l'Ancien Testament, dans des traductions littérales, appelle le devoir du lévir. Le lévir, c'est le beau-frère. Le lévira. Et donc, le beau-frère devait s'occuper de sa belle-sœur veuve. Et si lui était marié, alors il avait une famille, il fallait qu'il s'occupe de sa famille, et peut-être que quand on était agriculteur avec une petite portion de terre, c'était pas facile de s'occuper déjà de sa famille. Et donc, il fallait qu'il donne semence et subsistance à une femme pour que cette femme ait des enfants et puisse les élever avec un protecteur. Alors je crois qu'aujourd'hui on est un peu peut-être choqué, surpris, scandalisé par cette règle du lévirat parce que on a peut-être aussi avec la sensibilité romantique du 19e la délicatesse de l'amour, de la relation, etc. Je pense que les choses sont peut-être plus complexes que ça.
Parce qu'il fallait que le beau-frère ait une relation sexuelle avec sa belle-sœur.
C'est ça, c'est ça. Je serais curieux de, quand toutes les choses seront finies, hein, et qu'on rencontrera Jésus-Christ, qu'on puisse l'entendre, nous en parler, et voir ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, en France, où finalement l'individu est respecté et où il y a beaucoup de familles monoparentales à cause des divorces, où il y a beaucoup de célibataires, je ne sais pas si on est franchement plus heureux qu'en Israël, du temps où il y avait le beau-frère qui donnait subsistance à sa belle-sœur, semence et subsistance. Personnellement,
subsistance, on comprend bien. Mais donner des enfants, ça compliquait, ça alourdissait la charge.
Oui, mais s'il le pouvait.
Ah, s'il le pouvait, d'accord.
Oui. Voilà, et donc je crois qu'il y a ici quelque chose qui est une indication de Dieu sur le fonctionnement des nations, hein, des pays, où en France aujourd'hui, on prend soin des veuves et des personnes qui sont déficientes du point de vue financier, pécunier, différemment. En Israël, à l'époque, on le faisait comme ça, et personnellement, ça ne me choque pas beaucoup. Je pense que dans la vie de tous les jours, on voit suffisamment de mauvais mariages pour critiquer les bons lévirats.
Oui.
Hein, voilà.
Oui, oui.
Mais le lévirat reste de toute façon une situation exceptionnelle.
Hein, il faut que le mari soit mort, d'abord.
Voilà.
C'est une condition essentielle. Oui.
Voilà.
Et donc là, Noémie donc révèle cette possibilité. Alors, on a dit que Boaz est vraiment à l'image du Christ, donc, et qu'il va évidemment apporter le secours. Alors là, nous en sommes tout simplement à un point où c'est après, donc, disons, les choix, après le déplacement, après le travail de la foi et du service, on arrive un peu au bienfait de la foi et de la rédemption, parce que les choses vont bien s'arranger. Donc, selon toutes les conseils de sa belle-mère et selon la tradition, Ruth va se coucher au pied de Boaz endormi dans le champ. Alors, pourquoi se couche-t-elle au pied ? Quelle est sa signification ?
C'est une position de soumission.
Mm.
C'est une position de respect, une position de présence. Il faut noter plusieurs choses, il me semble, dans ce chapitre 2. Le premier, c'est que Boaz dit à ses moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» En France, aujourd'hui, en 21e siècle, on serait choqué de cette question, parce que l'identité d'une femme ne passe pas par la personne à qui elle appartient. Quand on se marie, on n'est pas donné.
C'est l'époque.
Mais à l'époque, voilà, la question...
Elle était étrangère, voilà. Elle devait être très très brune par rapport...
Et dans cette question-là, je pense qu'il y a indirectement, la question est-elle mariée ou n'est-elle pas mariée. Et Boaz n'était pas marié apparemment. Et Boaz, dans ce qu'on voit dans dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, au verset 5, c'est que Boz est le fils de Rahab. Et Rahab était une prostituée qui était à Jéricho, et c'est elle qui a donné aux espions le fait de savoir ce qu'ils avaient à faire. Oui. Et donc, sans faire de la psychologie de bas état, peut-être qu'on peut comprendre pourquoi Boz était célibataire. Peut-être qu'il avait honte, peut-être qu'il était...
Peut-être, lui, il n'avait peut-être pas honte, mais c'était peut-être les futurs beaux-pères qui ne voulaient pas de Jeanne, le fils d'une prostituée.
C'est ça, voilà. Et donc, Boz était un homme riche et puissant, et donc il remarque Ruth, et alors, quand il entend que c'est une jeune Moabite, donc déjà, il n'est pas dérouté, choqué, il n'y a pas d'interdit pour lui, et... mais il n'apprend pas qu'elle est quelqu'un sur qui il a droit de rachat. Mais il lui dit simplement, avec sa bonté personnelle, ne va pas glaner dans un autre champ, et il donne des ordres à ses moissonneurs
de la laisser faire.
On peut aussi noter, un peu plus loin dans le chapitre, qu'elle lui dit pourquoi, au verset 10, ai-je trouvé grâce à tes yeux et que tu ne me reconnaisses et que je suis une étrangère. Et sa réponse est très touchante. Il dit, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari m'a été rapporté. Comment tu as quitté ton père, ta mère, le pays de ta naissance et que tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Donc on voit cet homme qui est très généreux, qui est très, mais aussi qui s'est informé, qui a toute cette bonté mais rationnelle. On sent que c'est un homme de responsabilité et qui fait vraiment ce qu'il devait faire. Je trouve que c'est très beau.
Oui, et effectivement, il reconnaît aussi les mérites de Ruth, et puisqu'il sait qu'elle n'a pas abandonné Noémie, et qu'elle est étrangère, elle a eu quand même le courage de venir dans son pays. Alors cette histoire de coucher à ses pieds. Il dort, et il va se réveiller, il va la trouver. Et c'est un peu gênant, parce qu'on va pouvoir se demander, des bonnes langues du pays, pourquoi ils ont dormi tous les deux, et qu'est-ce qu'ils ont pu avoir fait dans un champ la nuit. Et il lui demande de partir discrètement.
Du côté de Ruth, cette position d'aller se coucher à ses pieds est pratiquement une demande en mariage.
Oui.
C'est une position de soumission, de disponibilité, et c'est la manière qu'elle prend pour voir si effectivement Boz l'accepte ou non. Et donc quand Boz voit cela, alors elle est, il décide de peut-être que ça correspond déjà à ce qu'il voulait avant. Il est heureux.
Oui, il s'est informé quand même. Il voulait bien savoir qui elle était.
Il l'apprécie, il lui a dit. Et donc, dans ce chapitre 3, il dit, on peut noter des certaines expressions dans son discours, il lui dit, verset 10, « Tu as montré plus de bonté à la fin qu'au commencement. » Donc, il avait perçu sa bonté au commencement, il l'aperçoit à la fin. Mais pourquoi est-ce qu'elle a eu de la bonté? Alors il lui dit, en ce que tu n'es pas allé après les jeunes hommes, pauvres ou riches. Ça veut donc dire que Boz n'est pas si jeune que ça.
Oui, c'est un homme mûr.
Oui. Ça veut dire qu'elle aurait pu aller vers les jeunes hommes, vers les personnes de son âge, en faisant peut-être usage de sa beauté.
Bien sûr.
C'est possible en tout cas. Et donc il lui dit maintenant, verset 11, ma fille, ne crains pas, tout le monde sait, toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et il dit, il est vrai que j'ai le droit de rachat. Donc, il sait déjà qui est Ruth, qui est sa famille par rapport à la sienne, à celle de Ruth, et quelles sont les modalités de ce qu'il doit faire. Et c'est beau de voir un homme comme lui, peut-être qui a souffert avec son histoire, mais qui a une conduite très digne par rapport à cette femme.
Donc, effectivement, il la reconnaît donc pudique et vertueuse, il y a aussi un respect de la tradition, et il peut faire valoir son droit de rachat. Seulement, il y a un petit inconvénient qui se présente, c'est qu'il n'est pas le premier dans la liste
des proches-parents.
Il y a une autre personne qui est plus proche et qui peut exercer son droit de rachat. Alors, à la demande du maître, elle reste avec lui jusqu'au petit matin, puis par discrétion, évidemment, elle se retire. Alors ça, c'est l'intimité que l'on peut avoir de Dieu avec sa créature, je trouve, hein, endormie au pied du maître, en fait. C'est une relation n'importe quelle personne un peu petite, un peu faible, un peu pauvre pourrait avoir avec Dieu. Et Dieu l'accepte comme ça. Et au matin, il la reconnaît, quoi.
Et qui montre que Dieu ne fait pas tout, puisque Dieu apprécie qu'on vienne se mettre sous son aile.
Voilà.
C'est une démarche. Ça montre donc que, d'un côté, Dieu donne la grâce, mais de l'autre côté, il faut entrer dans cette démarche de réception de la grâce pour l'avoir.
Et donc, au petit matin, ils se séparent, Boaz et Ruth, mais ils lui donnent 6 mesures de blé. Alors, je cherche une signification dans le nombre. Pourquoi 6? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 5?
6, c'est le nombre de l'homme.
Ah.
C'est 666, c'est le nombre de l'Antichrist.
Oui.
C'est le nombre de la bête. 6, c'est le nombre de l'homme. Et souvent, il y a 6 choses que l'Éternel est, nous dit un proverbe, a en horreur. Et donc, il y a un nombre de défauts, de vices. 6, c'est le nombre de ce que l'homme est en tant qu'incomplet, mais aussi au titre de ses besoins, certainement. Les 6 sens, par exemple.
Oui. Et donc, en fait, ça ne veut pas dire que Dieu limite sa générosité. C'est encore une tradition. Glaner, le lévira, 6 mesures.
Ça peut vouloir dire que là... ce dont elle a besoin, voilà. Hein, ces 6 mesures.
Oui, ça peut correspondre à ses besoins. Alors, il faut attendre, patienter, c'est ce que Noémie conseille à Ruth. Effectivement, on ne peut pas toujours, évidemment, demander à Dieu de faire des miracles, pour ça se figurer tout de suite à notre demande, bien entendu. Il faut que laisser les choses mûrir. Je rappelle que tout à l'heure, on disait que le grain n'est pas encore du froment et encore pas encore du pain, donc là, il faut effectivement, et là, elle donne mon conseil, qu'il faut attendre. Et Boaz va agir, lui, pendant ce temps. Hein. Il fait ses démarches, il rencontre celui qui pourrait racheter, qui pourrait appliquer son droit de lévirat, et devant les 10 anciens assis sur la porte, à la porte de la ville, donc il fait ça publiquement, en respectant la tradition. Et en fait, cette personne qui contactait ne donne pas suite à son droit, ce qui permet à Boaz de recueillir l'héritage d'Élimélec et d'épouser Ruth. Ça va, c'est ça, c'est l'histoire.
Alors, en fait, Élimélec est ruiné,
oui.
Hein, donc il récupère
le passif
hein, et la personne à qui il va justement donner subsistance, mais plus que ça, puisqu'il est célibataire et qu'il constituera véritablement sa famille.
Oui. Ouais. Donc, il est encore plus courageux, parce que non seulement il prend une jeune étrangère, et en plus, l'héritage d'Élimélec, comme il était ruiné qu'il n'avait plus rien, c'est un passé, il a peut-être des dettes à payer, là, encore.
Et c'est pour ça que, dans ce chapitre 4, quand on voit Boaz qui monte à la porte, qui s'assied, la porte, c'est la porte de la ville, c'est là où les anciens sont là, c'est là où sont décidées les choses de la ville. On pourrait dire que, par exemple, dans chaque ville en France aujourd'hui, il y a un conseil municipal, mais qui est public, et dans lequel les décisions sont prises de manière publique, alors bien sûr avec ceux qui comprennent quelque chose, parce que souvent les décisions sont complexes.
Oui.
Et donc Boaz va poser le problème, et on voit au verset premier, et voici, celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer, et ce qui est très intéressant, c'est que son nom n'est pas dit.
Oui.
Comme si... presque on voulait ne pas l'accabler. C'est lui qui devait racheter Ruth.
Oui.
Hein, c'est lui qui était le parent le plus proche. Et donc,
c'était une obligation.
Et oui, c'est un devoir.
C'est, hein, un devoir.
Un devoir moral, c'est un devoir important. Et on voit quelles sont les raisons de la personne qui ne veut pas racheter. Hein, il dit, par exemple, au verset 6... Celui qui avait le droit de rachat dit « Je ne puis pas le racheter pour moi, de peur que je ne ruine mon héritage. » Alors, est-ce que c'est quelque chose de sensé? Est-ce qu'il dit, écoute, moi, je n'ai pas les moyens d'avoir de femme, oui. Ce qui est tout à fait légitime. Mais ça peut aussi être quelque chose de l'ordre de l'avarice ou de la mesquinerie. Hein, c'est aussi possible.
Oui, mais peut-être, ne soyons pas sévères, c'est peut-être aussi, parce que c'est que Boss a beaucoup plus de moyens que lui, et que Ruth sera mieux avec Boss qu'avec lui, ou alors, elle sera que la deuxième épouse.
Vous voyez, le rite du Lévira, plutôt la règle du Lévira, ce n'est pas vraiment un rite, étant Deutéronome 25, je crois tout à l'heure d'ailleurs que j'ai dit Lévitique 25, mais c'est Deutéronome 25, et on trouve ça à partir du verset 5, quand des frères habiteront ensemble et que l'un d'entre eux mourra, il n'aura pas de fils, la femme du mort n'ira pas s'allier dehors à un homme étranger, son lévir, donc son beau-frère, viendra vers elle et la prendra pour femme, etc.
Et alors, si les deux frères vivent ensemble,
oui.
Bon, déjà il y a une condition.
Oui.
Et là, Ruth ne vivait pas avec ce monsieur déjà.
Les deux frères.
Les deux frères. C'est,
en fait, mais vous savez que en Israël, la terre reste là où elle est, bien sûr, c'est normal.
Jusqu'à maintenant, hein? Oui.
Et donc, et elle est toujours rapportée aux mêmes tribus. Mm. C'est-à-dire que les tribus ne perdent pas leur terre, et donc c'est normal que la famille soit ensemble. Implantée. Donc, s'il y a deux frères qui sont ensemble, alors voilà la règle du Lévira qui se met en place. Et il est dit au verset 7, s'il ne plaît pas à l'homme de prendre sa belle-sœur, sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira « Mon Lévi refuse de relever le nom de son frère en Israël. » Alors, verset 9, « Sa belle-sœur s'approchera de lui devant les yeux des anciens, lui ôtera la sandale de son pied et lui crachera à la figure. Et elle dira, c'est ainsi qu'il sera fait à l'homme qui ne bâtira pas la maison de son frère. » Et la maison, son nom sera appelé en Israël la maison du déchaussé. Pour dire que cet homme qui n'est pas nommé est quand même un homme, me semble-t-il, qui est un peu humilié par la position qu'il prend. Je ne connais pas ses motivations, mais je ne suis pas certain que ses motivations soient très bonnes.
Oui, bien sûr. Bon, l'essentiel, c'est que, j'allais dire, retrouve chaussure à son pied.
Voilà, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire.
Alors, effectivement...
C'est d'ailleurs ce que dit le chapitre 4, verset 7.
Oui.
Hein, il y avait une coutume en Israël, en cas de rachat et d'échange,
oui, oui.
Que pour confirmer toute affaire, l'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Et donc, ici, on voit celui, verset 8, qui a le droit de rachat, qui dit à Boaz, achète pour toi, et il ôte sa sandale, et Boaz dit aux anciens, vous êtes témoins aujourd'hui, etc.
Alors moi, je trouve que même dans la démarche de Boaz, qui se présente devant les 10 anciens, ça fait quand même penser un peu au Messie, à Jésus, qui a affaire justement aussi aux anciens, à la tradition. Mais là, ça a un côté quand même positif, il lui donne la bénédiction, et donc, mais il a quand même une difficulté, puisque l'autre pouvait passer avant, il n'était pas reconnu donc, comme le premier. Donc on peut encore trouver des allusions un petit peu comme ça, à l'histoire du Messie. Non reconnu, puisqu'il y en a encore un autre. Hein. Donc, et là, il y a un changement. C'est peut-être la nouvelle loi, la nouvelle alliance qui apparaît, effectivement, et qui va remplacer, évidemment, donc, l'ancienne loi. Je ne sais pas, ça peut tirer par les cheveux, mais on peut, je pense, peut-être le voir comme ça.
On peut dire, dans un sens moral, que l'adversaire de Jésus-Christ aujourd'hui, s'il en existait un, ça serait... la condamnation que nous portons, à cause de la loi de Dieu, par exemple, à cause de la loi écrite, à cause du devoir d'amour, à cause de l'amour de Dieu, le fait d'accorder plus de prix à la condamnation que nous portons qu'à la grâce que Dieu nous fait.
Oui.
Et peut-être qu'ici, cette personne qui a le droit de rachat, c'est un peu comme la loi qui nous condamne. Ah, ce que j'ai fait, c'est mal. Ah oui, mais moi, je ne peux pas être pardonné par Dieu.
Voilà, oui.
Et de ce point de vue-là, il y a peut-être en type, dans cette personne qui a le droit de rachat, la loi qui a une exigence sur nous, en disant, eh bien, voilà, un tel a été ceci, cela, 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 etc. Et donc, il y a une condamnation sur la personne. Et il faut vraiment que la condamnation montre qu'elle ne peut rien faire pour que la grâce puisse s'exprimer. Si la loi n'a aucun effet sur nous, alors la grâce peut s'exprimer. Si nous sommes sous la condamnation, alors quelque part, la grâce ne s'exprime pas.
Et voilà.
Et Jésus-Christ, par la croix, a effacé la condamnation qui était sur nous. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui est dans la
Oui, je sais
prolongation
pas.
de ce que vous
Oui,
dites
peut-être. Bon.
avec cette grâce.
Alors donc, effectivement, les anciens vont donner leur bénédiction et par là, on va rattacher donc Ruth, qui est une étrangère. Et Dieu sait si les deux pays n'étaient pas dans des grandes relations amicales. Hein, et ça devient donc grand personnage de toutes les femmes de la Bible, hein, que ce soit Léa, Rachel, Tamar et peut-être aussi la mère de Boaz dont vous avez parlé tout à l'heure, dont la Moabite est reconnue comme fille du peuple d'Israël. Là, donc, Ruth n'a pas à intervenir, c'est Boaz qui a agi. C'est lui qui a fait les démarches, effectivement, comme il suffit de faire, confiance au Seigneur et dans la foi. Elle s'est soumise à ses pieds, hein, le jour où elle est allée dormir, et puis elle a laissé faire, sur les conseils de Noémie qui lui avait dit, bon, laisse faire. Donc, elle a laissé faire, et c'est donc Boaz, l'image du Christ, effectivement, qui intervient et qui fait. Et alors, le plus important, c'est que Boaz et Ruth ont un fils et qui sera évidemment le grand-père du roi David. Donc ensuite de Jésus qui va naître évidemment donc qui sera de la lignée de David à des ancêtres qui sont des femmes qui sont étrangères et même vous m'avez dit prostituées tout à l'heure. Donc c'est quand même lourd de conséquences.
Je pense que aujourd'hui où nous avons un rapport à l'étranger qui est difficile en France, on peut méditer profondément ces choses et peut-être donner quelques grandes lignes de ce que pourrait être l'accueil de l'étranger. Je crois que dans le Pentateuque, l'accueil de l'étranger est quelque chose d'absolument ordonné, d'absolument commandé. Nous avons à accueillir l'étranger. Ne pas accueillir l'étranger, c'est quelque part renier Dieu. C'est ne pas se rendre compte que l'étranger a besoin d'être accueilli, a besoin d'être sauvé, a besoin d'être encouragé. Et toute nation devrait être une terre d'accueil. Et je milite pour que la France le soit encore aujourd'hui. Cela étant, l'étranger ne vient pas dans la nation d'Israël n'importe comment. L'étranger, Ruth par exemple, dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc je crois que la venue de l'étranger dans la nation est quand même une venue dans laquelle l'étranger devient membre de la nation et
Non,
devient
adhérer au
et
pays
doit
d'accueil.
adhérer au pays d'accueil. Il y a il n'y a pas une unilatéralité de la démarche. Il y a une réciprocité. Quand il y a accueil, il y a aussi adaptation. Et je pense que les problèmes de xénophobie, hein, de haine de l'étranger, ou de crainte de l'étranger, phobie c'est plutôt la crainte, viennent souvent et surtout du fait que l'étranger est souvent accueilli dans un pays par intérêt. Hein, je pense par exemple dans les années 50 à l'après-guerre aux Italiens qui sont venus en France, je pense aux Yougoslaves. Aux Turcs, après aux Maghrébins, et je crois que et puis aux Maliens, etc. Je pense que dans cet accueil de l'étranger, le pays qui accueille est un pays qui malheureusement accueille par intérêt économique.
Et ils ont une main-d'œuvre
Hein?
souvent.
Voilà. Et donc là, il y a quelque chose qui n'est pas juste, où les intentions ne sont pas bonnes, et qui fait qu'il y a souvent un mépris. Par exemple, l'expression l'orital. Hein, est une expression méprisante
Vis-à-vis des États, des
vis-à-vis des
Italiens.
Italiens, et alors que les Italiens ont montré de différentes manières qu'ils savaient très bien travailler
Donc
et mieux
construire.
construire dans le bâtiment, hein, comme les Portugais ou autres personnes. Et donc, je crois que dans cette notion d'accueil de l'étranger, nous avons beaucoup à réfléchir, mais aussi l'étranger doit réfléchir quand il vient dans une terre d'accueil. À finalement parler la langue
C'est la moindre
du
des choses.
pays et dans ses coutumes, à vivre avec les autres et ne pas vivre en vase clos, alors que très souvent, enfin, on voit toutes ces petites minorités de personnes qui ont des coutumes très particulières et qui ne s'intègrent pas aux coutumes des pays. Et je crois que c'est là où, malheureusement, la xénophobie s'installe.
Donc le livre de Ruth se termine sur un événement heureux, mariage et descendance qui est assuré. Et donc là maintenant, on peut peut-être un peu conclure et retenir par exemple, pour chacun des personnages qui ont pu intervenir, un peu revoir ce qui en a été dit. C'est le cas de Noémie. Bon, il y a la notion de retour. Il faut revenir peut-être parfois lorsqu'on est parti, lorsqu'on s'est éloigné de quelque chose. Et il y a un retour peut-être physique, hein, peut-être, mais disons surtout sur soi-même. Parce qu'effectivement, bon, on veut espérer une récolte, une moisson, une délivrance, quand on est à l'étranger peut-être, il faut une persévérance, et puis mener son cheminage jusqu'au bout. Et Noémie quand même le fait, elle a le courage quand même, parce que je pense qu'elle a un certain âge, de partir, effectivement, et revenir dans son pays. Et son amertume au départ, de ce qu'elle arrive, parce qu'évidemment, c'est de l'humilité, de l'humiliation, effectivement. Et puis, elle passe peut-être au scepticisme, elle va se demander comment ça se passe. Et puis, en fait, eh bien, elle passe, on voit le bébé, et à la joie, et ses efforts sont couronnés. Donc, jamais désespéré.
Vous avez raison d'insister sur la notion de retour. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Et quelles que soient nos circonstances, il faut qu'aujourd'hui nous comprenions que c'est dans un retour vers Dieu que des choses peuvent se faire. Et qu'est-ce que c'est un retour vers Dieu ? Eh bien, c'est le fait de le rechercher, de rechercher sa présence, de rechercher sa compagnie, de rechercher ses paroles, de comprendre ses paroles, de se comprendre à sa lumière, de se placer dans sa lumière pour discerner les choses, pour prendre conscience des choses, pour aller au fond des choses, pour arrêter de laisser les choses dans l'ombre, vraiment d'accepter que la lumière de Dieu mette en évidence tout ce que nous avons caché et tout ce qui nous dessert. Hein, je crois que le retour, c'est un peu le fond de la réussite. Tout le monde tombe. Mais il faut apprendre à se relever, il faut apprendre à voir pourquoi est-ce qu'on est tombé, où est-ce qu'on est tombé et qu'est-ce qui s'est passé de manière très concrète.
Alors pour Ruth, c'est un peu le même chemin, mais c'est plutôt un refus de la fatalité avec Ruth. Hein. Elle est pauvre, veuve, sans enfant, étrangère, mais elle fait confiance en la Providence et elle va jusqu'au bout. Elle persévère, elle a du courage, elle est obéissante à sa belle-mère qui la conseille, elle est généreuse, elle s'occupe de Noémie quand même. Et puis elle s'engage dans une nouvelle voie qui va la conduire effectivement au salut, puisque bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est certainement l'image du Christ.
Vous voyez, par exemple, pour Ruth, comme pour les maris qui sont morts, comme pour Élimélec, le retour, c'est de dire nous n'aurions pas dû quitter la terre de Canaan. Mmh. Et je crois que Ruth, quelque part, s'associe à cette réalité-là,
à cette famille-là,
en reconnaissant que la vocation d'Israël, c'est d'habiter en Canaan. Mmh. Et donc, par exemple, s'il m'arrive à moi de faire une faute grave et d'être licencié de mon entreprise, ou bien de tromper ma femme et d'être en échec de couple, ou bien, que sais-je, moi, d'autres choses, d'être sous la discipline de l'Église, eh bien, le retour, c'est de savoir revenir à une chose qui est voulue par Dieu, qui est bonne, et dans laquelle Dieu veut me voir rester.
Alors, bon, c'est l'image du Christ, qui, donc, sauve, accueille et sauve. Et puis, il y a un autre élément, hein, sur lequel on peut conclure, c'est, disons, le poids de la tradition et de juive, effectivement. Donc, il faut vivre avec, il faut respecter. Alors là, à cette époque-là, disons, c'était sous des ultra-nationalistes qui menaient la barque avec Esdras et Néhémie. Parce qu'effectivement, donc, le pays était en plein désordre et évidemment, ils mettaient des règles assez dures et assez difficiles pour pouvoir évidemment redresser la barre. Hein. Eh bien, la loi peut être, disons, dépassée, effectivement, et on le voit qu'avec l'amour, avec le Christ, on peut très bien être, justement, atteindre le salut, même si la loi n'est pas respectée à la virgule près. Donc, prédominance de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance.
C'est vrai que dans cette circonstance précise, comme vous le dites, les ultranationalistes auraient pu reprocher à Boz de continuer à prendre une femme moabite. Mais le faisant, ils auraient transgressé la règle du droit de rachat.
Oui.
Alors c'était peut-être un peu compliqué pour eux, mais je comprends bien ce que oui. vous dites. Et si nous voulons transmettre la grâce, il faut vraiment laisser le jugement à Dieu et permettre à quelqu'un de revenir de toute façon.
Voilà, et effectivement, ce qui dure. Donc en fait, Ruth, je pense, montre une ouverture, effectivement, à l'autre, aux juifs en particulier, les étrangères, parce que ça doit savoir dans le village, toute sa démarche, qu'être étrangère, on le sait, et donc elle montre l'ouverture, mais elle revient, effectivement, et puis bon, on s'aperçoit que Dieu est plus grand que la loi.
Peut-être aussi pour conclure, je voudrais prolonger cet intérêt des versets clés.
Oui.
Et au chapitre 3, on en a vu un au chapitre 1er et un au chapitre 2, et au chapitre 3, souligner ce verset 13, « S'il arrive que le matin, celui qui a le droit de rachat veuille te racheter, c'est bien, qu'il le fasse. S'il ne lui plaît pas de te racheter, l'Éternel est vivant, que je le ferai, moi. » Voilà la confiance de quelqu'un qui certainement a peut-être déjà des sentiments pour Ruth, hein, quelqu'un qui est dans un projet qui l'engage, un projet personnel, mais il montre beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité, beaucoup de prudence, de nuance. Je trouve que c'est très beau. Et puis au chapitre 4, je voudrais proposer au verset 12 cette expression que de la postérité que l'Éternel te donnera, de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Pérets, que Tamar enfanta à Juda. Ce sont les voisins qui parlent à Boaz et qui montrent toute la récolte, hein, la postérité que l'Éternel te donnera de cette jeune femme. Alors, je voudrais parler un peu de récolte comme oui. conclusion. Je pense qu'il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Et nous, bien sûr, on aime que les récoltes. Mais je crois que la récolte, elle vient quand elle vient, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas tellement. Et peut-être que dans notre vie, si on est parti du pays de Canaan et qu'on est allé à Moab, là où il ne fallait pas, et qu'on revient, on a le sentiment d'un immense échec, d'un désert. Mais je crois que quand on est fidèle à Dieu, la récolte vient toujours un jour ou l'autre, et peut-être par des moyens qu'on ne soupçonne pas. Alors voilà quelque chose qui me motive à continuer à investir pour Dieu, à semer, et puis à dire, voilà, la récolte, ben, quand elle est là, on est content.
Bien sûr. Hein?
Mais la récolte, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors que le gâteau, c'est quand même l'implication avec Dieu, l'implication avec les autres, l'amour qu'on se porte. Et c'est le gâteau qui nous nourrit, c'est pas la cerise sur
c'est
le gâteau.
C'est pas la cerise, c'est vrai, oui. Mais c'est un plus, c'est tout. Donc, il faut lire le livre de Ruth qui est plein d'enseignements et qui est un livre simple et court.